Le coup de choisir. Arrêtons-nous devant notre vieux tube cathodique, celui qu'il ne fallait pas regarder de trop près pour ne pas s'abîmer les yeux. Du moins, c'est ce qu'affirmaient tous les parents à leurs enfants. Dans les années 1990, j'étais adolescent. Le rituel familial devant la télévision le soir était toujours le même. Nous nous installions tous sur le canapé du salon, la télécommande en main, mon père jouait au cow-boy en passant d'une chaîne à l'autre. À cette époque, il était impensable de ne pas avoir chez soi un endroit dédié aux loisirs télévisuels. C'est assez incroyable de penser qu'un simple objet a modifié nos habitudes au point qu'une pièce entière lui soit dédiée. Les tirs de zapette de mon père s'estompaient et nous nous arrêtions sur un programme. Je me suis souvent dit qu'en fin de compte, nous regardions le moins pire des programmes disponibles. Je m'explique. Nous avions décidé de regarder la télévision, c'était notre projet, et nous faisions un choix par défaut. Nous restions devant le programme le moins mauvais, celui qui nous ennuyait le moins. Était-ce ça le fonctionnement de la vidéo linéaire? Je l'ai pensé pendant un temps. Ce qu'on appelle la vidéo linéaire est une vidéo qui continue de tourner en notre absence. Si j'allume la télévision, je prends le programme en cours. Il ne m'a pas attendu. Il est diffusé en simultané pour tout le monde, que la télévision soit branchée ou non. Donc, si je veux voir un programme spécifique, il faut que je sois devant mon écran à l'heure. C'est le programme qui décide du rendez-vous et non l'inverse. La vidéo non linéaire, que l'on nomme souvent avec l'anglicisme VOD, Video on Demand, nous libère de cette contrainte pour regarder ce que l'on veut, quand on le veut. Ça a commencé par le replay de nos programmes favoris, puis avec les films récents, suivi des contenus façonnés à la maison par des créateurs du quotidien, Internet en général, et enfin les plateformes de type Netflix. Alors, c'est forcément mieux, non? À l'époque de la TNT, de Canal Satellite, de TPS et des autres offres de bouquets de chaînes, je n'ai pas eu l'impression d'entendre moins souvent le fameux « y'a rien à regarder à la télé en ce moment » que prononçait mon père chaque jour. L'offre s'était élargie. On parlait de plusieurs centaines de chaînes généralistes ou thématiques, et pourtant, il n'y avait toujours rien de spécial à consommer le soir devant son poste. Et vous, ne vous arrive-t-il jamais de passer plus de temps à choisir votre film sur Netflix qu'à le regarder? À faire défiler les vignettes YouTube sans savoir laquelle sélectionner? À fermer votre application de podcast pour mettre la radio, tellement vous ne savez pas quoi écouter? C'est là tout le paradoxe de pouvoir choisir dans une offre trop large. Il y a moins de singularité, moins d'événements. 30 ans avant que vous n'écoutiez ce livre audio, les films au cinéma étaient moins nombreux aussi. Le processus pour les voir chez soi, une fois passé leur exploitation dans les salles obscures, était long, très long. Le cinéma était protégé depuis des années par un système appelé la chronologie des médias. Cette histoire propre à la culture française est pleine de rebondissements. Je vous invite à lire l'article de Libération « La chronologie des médias, une histoire française bousculée » de Guillaume Le Caplin, paru sur le sujet il y a quelques années. Au début des années 1980, la règle appliquée est à peu près la suivante. Quand un film sort en salle, il est disponible à l'achat en cassette vidéo et en diffusion sur Canal+, un an plus tard. Ensuite, la location dans les boutiques de cassettes vidéo, disparue depuis des années, est possible. 2 ans après la sortie en salle, vous pouviez voir le film sur une chaîne française si, et seulement si, cette chaîne avait financé une partie de la production de l'œuvre. Sinon, 3 ans après la sortie du film au cinéma, vous pouviez enfin le voir à la télévision dite « normale ». Et 4 ans après la première sortie en salle, vous pouviez y avoir accès en service VOD payant. Comprenez, ou souvenez-vous, que dans ces conditions d'attente, l'accès à un film était un véritable événement. Aujourd'hui, il ne faut plus que 4 mois entre la première diffusion d'un film en salle et son arrivée sur les sites de vidéo à la demande payant. Et même 3 mois si le film a fait de mauvais scores sur ses entrées au cinéma. Mais les plateformes sur abonnement, qui ne sont pas soumises à un certain nombre d'engagements concernant le financement des créations cinématographiques françaises, doivent attendre 36 mois. C'est l'une des raisons qui a poussé Netflix à financer ses propres créations originales, et en masse. Certains se souviendront des semaines entières qui séparaient deux épisodes d'une série, de la trilogie du samedi soir qui ne respectait pas toujours l'ordre des diffusions, des premières intégrales vendues en VHS. Aujourd'hui, il devient presque inacceptable qu'une saison entière ne soit pas disponible d'un seul bloc sur Netflix. Malheureusement, quand l'offre culturelle devient une offre de masse, elle s'homogénéise. Quand tout se ressemble, il n'y a plus d'excitation. Tout semble monotone. Pourtant, tout le monde a envie d'être partout, de ne pas être exclu. Tu n'as pas vu cette série sur Next Prime Plus ? Attends, mais tu devrais. Tout le monde ne parle que de ça. Mais il faut bien faire un choix. Et ce choix a un prix cognitif. Oui, tout ce chapitre a quand même pour but de parler de l'attention. Le simple fait de laisser sur le côté ce que vous n'avez pas choisi a un coût cérébral, sûrement celui qui vous coûte le plus. Choisir, c'est renoncer. Et personne n'est jamais sûr d'avoir fait le bon choix. Vous devenez responsable de votre choix et ça n'est pas confortable pour votre cerveau. Si le contenu vidéo que vous choisissez ne vous plaît pas, et que vous avez mis 20 minutes à vous en rendre compte, c'est votre faute. Si vous n'avez pas vu la série dont tout le monde parlera demain, c'est votre faute. Comme il est coûteux pour l'esprit de prendre une décision et de choisir quand l'offre est infinie. Le plus simple est parfois de délaisser le divertissement, et ça, les plateformes l'ont bien compris. On y reviendra dans deux chapitres, vous verrez, leurs méthodes sont redoutables. Avant de parler des géants du numérique, autopsions le sujet de la culture. Qui dit culture, dit art. Et qui dit art, dit œuvre. Force est de constater qu'il y a de moins en moins d'œuvres et de plus en plus de divertissements. Prenons en exemple une personne qui ne m'en tiendra pas rigueur, quoi que je dise sur elle, c'est-à-dire moi. Sur ma chaîne YouTube, je veux trouver le juste milieu entre ce qu'il me fait plaisir de produire, ce que je veux profondément produire, et ce que le public veut voir comme vidéo. Ça paraît évident, mais je vous assure qu'équilibrer ces curseurs est bien plus chronophage et énergivore que d'écrire, produire, tourner et monter la vidéo en question. À force de pratiquer cet arbitrage, je constate que seul le divertissement survit à l'industrie des vidéos YouTube. Il y a quelques exceptions, mais elles sont par essence rares et hors de mon analyse. L'une de mes vidéos, qui traite du sens caché derrière des logos de marques bien connues du grand public, m'a demandé par exemple une petite heure de préparation, 20 minutes de tournage, aucun investissement financier et une heure de montage. Je vais être honnête, nous ne sommes pas sur une œuvre d'art, mais sur un divertissement sympa qui se veut un peu instructif. Cette vidéo a été visionnée 5 millions de fois et elle a généré 4000 euros de chiffre d'affaires pour ma société. De quoi payer le salaire et les charges d'un assistant de production. Il y a un an, j'ai posté une vidéo sur la vie de Jean-Eugène Robert Houdin, le fondateur de l'illusionnisme moderne, un Français qui a marqué cet art dans le monde entier. Ce documentaire m'a obligé à investir plusieurs dizaines de milliers d'euros en production et beaucoup de débrouillardise. Ce documentaire est, je le crois, une œuvre. Il plaît au public ou non, mais le fait est que la vidéo a une vision artistique, un propos, une réalisation soignée. 2 ans de travail, des jours et des jours de tournage, des semaines de montage ont été nécessaires pour créer la plus belle vidéo de mon écosystème. 1 an après sa publication, le documentaire affiche péniblement 200 000 vues. Et je n'irai pas dans le misérabilisme en vous donnant le chiffre d'affaires que la vidéo a généré. Comparaison des performances. 5 millions de vues pour un divertissement, 200 000 vues pour une œuvre avec du sens. Si j'étais une entreprise comme les autres, qu'il n'y avait pas la passion du partage au cœur de mon travail, le calcul, au bénéfice de la rentabilité, serait vite fait. Côté consommateur, tout le monde aime dire qu'il apprécie la chaîne Arte et ses documentaires. Mais ce sont les émissions quotidiennes de Cyril Hanouna qui remportent le plus d'audience, ou des programmes d'information d'éditorialistes. On s'attaquera à cette partie dans le prochain chapitre. Pourquoi ces programmes raflent-ils la mise de l'audimat ? Parce que nous prenons moins de risques en sélectionnant un divertissement. Le coût de choisir, c'est aussi le manque de gratification cérébrale auquel on s'expose en ne choisissant pas un divertissement qui pourrait nous les offrir. On ne veut pas prendre le risque de s'infliger le pire des maux, celui de l'ennui. Sommes-nous encore capables d'être contemplatifs, de faire cet investissement ? Si je regarde, par exemple, le programme LOL sur la plateforme Prime Video, je vais être certain d'être surpris régulièrement, de rire ou même d'être indigné. Mon choix est un investissement rentable si je veux recevoir des sensations, des émotions vives, avec une fréquence ne laissant pas de place à l'ennui, donc ne me demandant pas d'effort pour rester attentif devant mon écran. Même dans la consommation des produits domestiques, la surabondance fait rage et sature, volontairement, notre système cognitif. N'êtes-vous pas un peu surpris lorsque vous entrez dans un restaurant et que la carte ne propose que 3 entrées, 3 plats et 3 desserts différents? C'est pourtant un gage de qualité concernant les produits et la préparation des plats. Du moins, c'est ce que j'ai entendu dans la bouche des grands chefs. Que penseriez-vous d'une grande surface qui limiterait le choix à 3 références pour chaque produit? Vous sentiriez-vous contraint par ce magasin? Auriez-vous l'impression d'être privé de votre liberté de choisir? Attendez, je vais faire un test. Je viens de faire un test de la plus haute importance. J'ai tapé « papier toilette » sur le site internet du service Drive d'une célèbre enseigne, celle qui veut être un repère dans les produits pas chers. 23 résultats m'ont été proposés. Franchement, comme je n'ai pas fait d'études approfondies sur les différentes qualités de Watt, je vais choisir une référence avec des critères proches du hasard, probablement un prix intermédiaire. Le problème de la surabondance des choix, c'est qu'une fois la décision prise, on peut rarement revenir en arrière. C'est de là que naît la crainte d'avoir pris la mauvaise décision, de se dire que l'on aurait pu faire mieux, que l'on aurait pu mieux choisir. Les « et si » se bousculent dans la tête pendant et après la prise de décision. La crainte liée au perfectionnisme et le fait de ne plus avoir accès aux autres possibilités sont deux éléments qui provoquent un coup cognitif si fort qu'ils peuvent provoquer de l'anxiété, de la tristesse, allant même jusqu'à la dépression. Résumons. Choisir a un coût. Alfred de Musset disait « Je puis délibérer et choisir, mais non revenir sur mes pas quand j'ai choisi. » Plus l'offre est grande, plus le coût mental est élevé. Ce chapitre a probablement mis des mots sur des situations que vous vivez. Est-ce le bon choix pour les vacances? Quel vélo je vais m'acheter? Quelle série je vais entamer ce soir? Et ainsi de suite. Ces choix puisent dans l'énergie de votre capacité d'attention et de concentration quotidienne. Ces facultés ne sont pas des cornes d'abondance auxquelles vous pouvez vous abreuver toute la journée. Vous avez besoin de soulager votre esprit, et vous savez quoi? Vous pouvez compter sur la société de consommation pour prendre le relais et vous délester du reste de votre attention. Même dans des domaines que vous ne soupçonneriez pas, comme l'information avec un grand « i ».